Avant de retrouver comme un jeudi sur deux le rendez-vous de la médiatrice, après 13h20, dans l'actualité des idées aujourd'hui, un monde d'inégalités est-il une fatalité? On pose la question à notre invité, l'économiste serbo-américain Branko Milanović, ancien chef économiste à la Banque mondiale, visiting professeur à la City University de New York. Son essai « Inégalité mondiale » vient de paraître en France à La Découverte, où il se penche sur le destin des classes moyennes, des ultra-riches et celui de l'égalité des chances. Dans sa préface, l'économiste français Thomas Piketty souligne la singularité de son approche. L'échelle retenue est mondiale, étudier les revenus de 7,4 milliards de personnes ensemble et non pas pays par pays. Et ça, c'est une première. L'essayiste tire aussi dans cet essai les leçons politiques de cette analyse de la distribution de revenus dans le monde. Et après, à travers une série de questions scénarios, il interroge l'avenir. Qu'arrivera-t-il aux classes moyennes des pays riches? Les inégalités disparaîtront-elles avec la poursuite de la mondialisation? Voici quelques-unes des questions qu'il soulève à la fin de cet ouvrage. Bonjour à vous, Branko Milanović.
Bonjour à vous, merci de m'avoir ici.
Merci d'être avec nous, avec un français parfait. Un graphique résume les grandes mutations de ces 20-30 dernières années, surnommée la courbe de l'éléphant, parce qu'il en épouse les formes. Il est en couverture du livre, on vous le montre sur la page de notre site, si vous voulez le regarder en nous écoutant. Alors que nous dit-il ce graphique? Notamment, il nous dit que pour les 1% des plus riches, ça trompe énormément. Leurs revenus ont considérablement progressé.
Oui, comme vous dites d'ailleurs, le graphique est vraiment devenu très connu parce que vraiment il démontre, je pense, trois points qui sont très importants sur le résultat de la mondialisation, ou du moins le résultat de la période de la mondialisation. C'est que les riches, comme vous le dites, les riches sont devenus encore beaucoup plus riches, c'est-à-dire ils ont gagné énormément en pourcentage, c'est-à-dire par rapport à leurs revenus d'avant, mais encore plus en termes absolus. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment le manque de croissance parmi les classes moyennes des pays riches. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas très connu avant. On sentait ça, mais je pense maintenant avec les changements politiques qu'on est en train de vivre et avec cette espèce de peut-être de désatisfaction des classes moyennes des pays riches, alors c'est très clair. Et troisième point, c'est vraiment la montée des classes moyennes, si on peut dire comme ça, des pays de l'Asie et de la Chine en particulier. Alors vraiment, ce sont les trois points, je pense, les plus importants, probablement dans le présent, si on considère les revenus ou la richesse même.
Alors 1988, juste avant la chute du mur, 2008, début de la crise économique et financière mondiale, pour le dire clairement, qui sont les autres gagnants, à part ces 1% des plus riches, de cette période de mondialisation intense et qui sont surtout les grands perdants de cette période?
Vous savez, quand on, je commence avec les perdants. Alors, quand, si on définit, je m'excuse de faire les définitions, mais si on définit un perdant comme vraiment une partie de la population qui a perdu en termes réels, c'est-à-dire qui est, disons, moins riche qu'elle était qu'auparavant, alors il y en a très peu parce que c'était une période relativement qui était bonne. Alors, il y a vraiment dans les pays, par exemple, de transition, comme en Russie ailleurs, que les gens qui ont été perdants, mais vraiment, il y en avait très peu. Même les classes moyennes des pays occidentaux n'étaient pas perdants dans ce sens. Mais ils étaient perdants par rapport aux autres. C'est-à-dire que leur croissance était beaucoup plus inférieure à la croissance des revenus des gens qui étaient au sommet, c'est-à-dire top 1%, c'est le fameux 1% de Piketty. Mm-hmm. Et ils ont eu vraiment une croissance très inférieure aux pays de l'Asie. Et la Chine en particulier, mais il faut vraiment, on parle toujours de la Chine, et d'ailleurs je le fais moi-même, mais on oublie que vraiment les pays comme le Vietnam, la Thaïlande, les Indes, l'Indonésie aussi, vraiment eu des résultats très, très impressionnants.
Celui qui a compris qu'il fallait parler aux perdants de la mondialisation, puisque vous avez commencé avec eux, c'était, et c'est toujours, le président Donald Trump, le président américain. Il appelle, dans cette allocution qu'on va entendre, à relever le défi que la Chine semble poser.
Je respecte la Chine et le président Xi, mais ils nous tuent. 507 milliards de dollars de déficit commercial l'année dernière. 507. 507. Who the hell can look? Bon sang, qui peut perdre la guerre commerciale avec 507 milliards de dollars de déficit? Et quand tu veux régler ça, tu te fais attaquer. C'est pas bien, c'est pas du libre-échange. La guerre commerciale a été perdue il y a plusieurs années. Et maintenant, on va la gagner car on a toutes les cartes en main.
Alors, dans cette période de mondialisation intense, Branko Milanovic, est-ce que c'est vrai ce que dit Donald Trump? Est-ce que c'est vrai que les Chinois ont tué les Américains? Ou est-ce qu'ils nous ont pas d'ailleurs tous tués avec?
Vous voyez, c'est très difficile de répondre en disant oui ou non. Est-ce qu'il est vrai, la question que ça pose, est-ce qu'il est vrai que la croissance de la Chine, en quelque sorte, se fait aux dépens des classes moyennes occidentales? Alors vraiment, ça c'est la question, je pense, clé. Et pour dire non, je pense qu'on n'est pas très honnête en disant non, parce que vraiment, il y a des conséquences mondiales de la croissance chinoise. On le voit ça dans l'habilité de Chinois, vraiment, de faire des produits à un prix beaucoup plus inférieur que les pays occidentaux. On le voit dans la délocalisation, etc. Alors, quand je dis Chine, encore une fois, je ne pense pas seulement à la Chine, je pense pas mal des pays d'Asie. Alors, dans ce sens, oui, ce qu'il dit est vrai. Mais est-ce que ce qu'il propose vraiment est quelque chose qui améliorerait la position des classes moyennes américaines? Je ne le pense pas du tout. Alors là, il faut vraiment réaliser qu'il peut y avoir un certain constat qui peut ne pas être faux, mais les mesures pour redresser cette situation peuvent être très, disons, fausses, ou les mesures qui peuvent avoir des effets contre-productifs.
Vous avez travaillé pour recueillir toutes ces données et les analyser en tandem avec Christophe Lackner, un autre économiste. Comment vous avez procédé? Parce que on le disait en ouverture, la particularité de votre démarche est que vous travaillez et regardez ces évolutions à échelle mondiale. Vous avez étudié les revenus de tous les pays du monde?
Oui, presque tous, parce que vraiment, il y a des pays vraiment où on n'avait pas de données, s'il y a la guerre civile ou peut-être il n'y a pas d'institution pour recueillir les données. Mais en général, on avait quelque chose comme entre 25, comme 125 ou 135 ou même 140 pays pour chaque année. Alors, j'avais de la chance, comme vous l'avez mentionné, d'être dans la recherche de la Banque mondiale, où ces données, en quelque sorte, sont recueillies d'une manière beaucoup plus facile, parce que, bien sûr, la banque a des relations avec beaucoup de pays que, normalement, vous n'avez pas comme un individu privé. Vous n'avez pas vraiment l'accès aux données, par exemple, de Nigeria. Vous n'avez pas accès aux données de République laotienne. Alors, nous, on en avait. Mais vous savez, au début, alors je conclue avec ça, mais au début, vraiment, quand j'ai commencé à le faire, c'était dans les années 85, 96, l'idée de faire un truc au niveau global, c'était absolument nouveau, parce qu'on n'y pensait pas. On pensait toujours ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique. On pensait vraiment...
Pays par pays.
Pays par pays, absolument. Et quand je commençais à le faire, c'était quelque chose de totalement nouveau.
Pourquoi on n'y pensait pas? Et surtout, qu'est-ce que ça a changé, en fait, le fait d'y penser? Qu'est-ce que ça change dans notre analyse de cette situation des inégalités?
Mais peut-être c'est un peu marxiste, mais vraiment, je pense que le fait qu'on a eu la mondialisation a fait que nous commencions à penser au niveau mondial, au niveau global. Parce qu'auparavant, vraiment, on pensait seulement... C'est-à-dire, quand on pensait au niveau global, c'était quelque chose comme une accumulation des niveaux nationaux. Mais maintenant, vraiment, pour la première fois, peut-être, on pense vraiment au niveau mondial. Alors, ça change des choses. Parce que quand je vous dis, par exemple, vous avez deux changements qui vous paraissent paradoxaux. D'un côté, l'augmentation des classes moyennes, la diminution des classes moyennes occidentales. D'autre part, l'émergence, pour la première fois peut-être dans l'histoire, d'une classe moyenne, en quelque sorte, moyenne globale. Alors, comment réconcilier deux choses? Comment vraiment comprendre les deux?
Vous écrivez « Se pencher sur les inégalités mondiales », c'est tout simplement se pencher sur l'histoire économique du monde. Comment on fait, quand on est économiste, chercheur comme vous, Branko Milanovic, pour analyser l'histoire encore en cours, en train de s'écrire? Et surtout, est-ce que vous arrivez à nous situer aujourd'hui, de nous dire dans quel cycle économique nous sommes?
Oui, c'est bien sûr très difficile de vraiment penser le présent, parce que c'est plus facile de penser le passé, parce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé. Mais le présent est beaucoup plus difficile. Mais la chose que je voudrais peut-être souligner toujours, c'est quand on regarde la mondialisation maintenant, il faut en quelque sorte la regarder comme une espèce de miroir, une image miroir de la première globalisation, disons, avant la Première Guerre mondiale. Parce que ce qui était important dans cette première globalisation, ça c'était vraiment l'avènement de l'Occident. Et vraiment, les coûts de cette mondialisation ont été payés par l'Asie, par les Indes et par la Chine. Maintenant, en quelque sorte, on fait l'inverse de ça. C'est-à-dire, les coûts, en quelque sorte, on parle de classe moyenne occidentale, sont payés par classe moyenne occidentale, mais les gagnants sont les pays d'Asie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Je pouvais en citer pas mal d'autres, mais je pense qu'il faut regarder ça dans une échelle de longue durée.
Alors, vous montrez aussi à travers vos recherches, parce que vous procédez en économiste, mais aussi un peu en politiste. Vous faites une analyse politique des données que vous avez pu analyser et montrer quelles sont les leçons ou les conséquences politiques de cette analyse de la distribution des revenus dans le monde. Et on voit à travers votre travail aussi, on comprend peut-être mieux les dérives plutocratique, c'est le terme que vous employez, des régimes, et notamment aux États-Unis. La plutocratie, c'est ce système de gouvernement où les plus riches, les plus fortunés détiennent le pouvoir politique. Je voulais vous proposer d'écouter Branko Milanović à une évocation du rapport de l'ONG Oxfam qui a précédé l'ouverture du forum de Davos cette année.
Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est vertigineux. Depuis Davos, l'organisation tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme.
Les personnes les plus riches, les personnes les plus puissantes et les dirigeants politiques dans le monde doivent agir. Ils sont le problème et nous voulons qu'ils soient la solution pour mettre fin à ces inégalités extrêmes qui s'accroissent et qui nuisent et ralentissent nos économies.
Selon le rapport, entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire est apparu tous les deux jours.
Alors je le disais, à travers cette étude, et si on reprend notamment le graphisme, la courbe de l'éléphant, c'est cette période 88-2008 que vous étudiez 10 ans après. Où en est-on? Est-ce qu'on se dirige ou est-ce qu'on est déjà dans une plutocratie mondiale?
Oui, je pense qu'on se dirige en quelque sorte vers ça. Et d'ailleurs, la courbe d'éléphant, elle était renouvelée en quelque sorte, parce que maintenant, ça couvre la période jusqu'à 2013. Alors, il n'y avait vraiment pas beaucoup de changements. Il y a d'ailleurs un changement sur la position de pourcentage le plus riche, qui est encore, disons, plus important qu'il n'était dans le passé. Mais je pense que au niveau des pays, quand vous regardez, pour simplifier les choses, on peut dire qu'il y a une espèce de, où vous avez une démocratie libérale, on sait qu'est-ce que c'est, ou une espèce de système, ce qu'on appelle le capitalisme politique de la Chine ou capitalisme d'État, et troisièmement, une plutocratie. Alors je pense que le danger, c'est que vraiment les systèmes libéraux capitalistes deviennent de plus en plus plutocrates. Et dans quelque sens, vraiment, les États-Unis, avec vraiment une importance énorme des milliardaires dans la vie politique, démontrent ça. Et finalement, je pense que ce serait vraiment un danger vraiment très réel de dérapage dans ce sens-là.
Vous pouvez l'illustrer, le décrire, ce danger, on imagine bien que ça peut avoir du coup des conséquences pour la démocratie, c'est ça qui vous inquiète?
Oui, je pense que ça inquiète beaucoup de gens, parce que quand vous avez le pouvoir économique qui est vraiment entre les mains des gens qui sont extrêmement riches, qui contrôlent en donnant l'argent, bien sûr, aux candidats qui se qualifient, contrôlent le procès politique, qui ensuite font de sorte que ces candidats ou peut-être les, disons, représentants votent des lois qui renforcent la supériorité économique de ces gens-là, alors vous avez une espèce de cercle vicieux où vraiment, si vous avez de l'argent, vous contrôlez la politique. Si vous contrôlez la politique, vous en avez encore plus. Et vraiment, c'est un dérapage, je pense, vers la plutocratie qui est, à mon avis, qui est très fort en Amérique, mais qui existe même en Europe, parce que c'est la même chose, mais quand vous regardez vraiment les différents scandales politiques en Europe, que ce soit avec Sarkozy ou Helmut Kohl avant ou avec Berlusconi, c'était toujours les scandales de financement de partis politiques. C'est pas comme, par exemple, que les gens imaginent en Afrique que le président vole l'argent pour lui-même. C'est vraiment, on a nécessité de financer les campagnes, on a nécessité d'avoir d'argent pour avoir des gens pour voter pour vous ou pour les autres pour qu'ils votent des décisions que vous, disons, des mesures que vous proposez. Alors je pense que le financement public des campagnes politiques est absolument indispensable.
Voilà, c'est au cœur de l'ouvrage d'une de vos consoeurs, ouais. Julia Caget, Le prix de la démocratie, qui a d'ailleurs étudié aux États-Unis et que vous avez dû croiser. Se pencher donc sur ces inégalités mondiales, ça nous parle aussi de nos systèmes politiques aujourd'hui. Pour l'Europe, vous semblez ou sembliez plutôt craindre l'avènement des populismes. Alors, l'ouvrage a été écrit en 2016. À ce moment-là, vous dites qu'il est peu probable qu'un parti populiste accède seul au pouvoir en Europe ou devienne le parti majoritaire dans une coalition. C'est arrivé ?
C'est arrivé, c'est vrai. Mais je pense que j'ai changé aussi un peu mon avis sur le terme de populisme, parce que je pense qu'il est vraiment maintenant utilisé à tort et à travers. Et je pense qu'il y a un danger là de disqualification, c'est-à-dire d'une grande partie de l'électorat. Parce que vraiment, maintenant, on utilise le populisme de droite, on utilise le populisme de gauche. Et le résultat de ça, c'est que finalement, vous n'avez peut-être que 20 ou 30% des électeurs qui ne sont pas des populistes ou des partis qui ne sont pas populistes. Alors, je pense qu'on est en train maintenant de traverser une période dans laquelle, comme on le sait, les partis traditionnels perdent. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va remplacer les partis de gauche et les partis de droite. Et parce que je pense qu'on ne sait pas vraiment comment qualifier ces différents partis qui apparaissent, y compris, par exemple, le parti de président Macron, qui est totalement un parti totalement nouveau, qui vient vraiment ex nihilo. Alors, je pense qu'on utilise le populisme, mais je pense peut-être que dans le futur, on aura vraiment au lieu de gauche à droite, peut-être il y aurait des partis, disons, plus mondialisateurs ou plus globalistes et les autres plus nationalistes. Il me semble peut-être qu'on se achemine vers cette espèce de partage politique.
Invité de la grande table aujourd'hui, l'économiste Branko Milanović, auteur de Inégalité mondiale, un essai qui vient de paraître ou qui est enfin traduit à la découverte. France Culture, il est 13h14.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Est-ce que ces inégalités sont une fatalité ? C'est la question que vous posez entre les lignes de cet essai, Branko Milanović. Elle est vaste, bien sûr, mais est-ce que vous pensez qu'on peut agir pour les réduire ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de forces bénéfiques disponibles pour réduire le fossé ?
Je pense que théoriquement, vraiment, bien sûr, il y a toujours la possibilité de réagir. D'ailleurs, le passé montre vraiment qu'on a réagi. Par exemple, on a réagi après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment une diminution des inégalités dans tous les pays occidentaux, vraiment une diminution très, très, très importante. Alors, on peut bien sûr le faire. Mais est-ce que ce serait facile de le faire? Là, je serais beaucoup plus sceptique, je pense. Parce que je pense qu'il y a des inégalités qui sont en quelque sorte intrinsèques au système capitaliste globalisé qu'on est en train de vivre maintenant. Et que les gouvernements nationaux ont vraiment certaines instruments que dans le passé vraiment ils pouvaient utiliser, mais qui sont des instruments qui ne marchent pas aussi bien dans le présent comme dans le passé à cause de la globalisation. Et là, je pense, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais je pense que vraiment le fait d'avoir des impôts très élevés sur le capital ou des impôts très élevés sur certains individus qui vraiment peuvent quitter, disons, France ou aller quelque part d'ailleurs, même si c'est exagéré, parce que très souvent, vraiment, ils ne quittent pas la France, ils disent seulement qu'ils quitteraient la France, mais je pense que ça limite la possibilité de gouvernement. En plus, la dernière chose que je voudrais mentionner, l'habilité des gens vraiment de ne pas payer les impôts, de créer vraiment les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est vraiment quelque chose qui est totalement nouvelle. Et je pense que dans ce sens, les instruments de contrôle d'inégalité ou de diminution des inégalités sont beaucoup plus faibles actuellement qu'ils ne l'étaient pas dans le passé.
Est-ce que l'État a encore un rôle à jouer? Et est-ce qu'il en a encore les moyens de jouer ce rôle?
Mais je pense qu'il a un rôle à jouer, parce qu'autrement, si l'État ne joue pas un rôle, alors on laisserait ces inégalités vraiment totalement déborder partout. Et vous avez vraiment une plutocratie dans les questions des années. Alors vraiment, l'État a absolument un rôle à jouer. Pas seulement en imposition, les impôts et taxes, etc., mais aussi dans beaucoup d'autres choses, comme la santé, l'éducation, l'infrastructure, les routes et beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que l'État a le moyen de le faire? Ça, c'est-à-dire, est-ce que l'État a la volonté de le faire? C'est une autre chose. Et d'ailleurs, une chose qui, je pense, est frappante, c'est qu'on est en train de parler des inégalités. Nous, on le fait maintenant, mais on le fait ça depuis 10 ans, au moins. Et quand vous regardez les politiques économiques des grands pays, que ce soit la France, ou au Royaume-Uni, ou disons l'Amérique, vraiment, on ne voit presque rien. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Vous avez la diminution des impôts de Trump pour des riches. Quelque chose de très similaire avec les réformes de Macron en France. Alors vraiment, c'est l'inverse.
La suppression de l'ISF.
C'est pas ce qu'on vraiment s'entendait. On parle de les inégalités de plus en plus, mais on fait de moins en moins.
Mais parce qu'on parle de soutenir la croissance aussi, de soutenir l'investissement. Or, vous ne vous présentez pas dans cet essai comme un partisan de la décroissance. Ce mythe de la croissance, il ne faut pas le remettre en question.
Non, je suis pas. Je suis en désaccord avec des gens qui pensent seulement que la décroissance c'est vraiment quelque chose qui est réaliste politiquement, parce qu'on le voit tous les jours que ce n'est pas réaliste. Les gens vraiment veulent avoir plus. D'ailleurs, en France, on parle de pouvoir d'achat, on parle exactement d'en avoir plus. La question, c'est vraiment le partage de revenus nationaux. Et je pense dans ce sens-là, vraiment, on est dans une situation paradoxale qui n'est pas seulement une situation française, mais partout, c'est que on ne fait rien du tout, outre parler tout le temps. Alors, je vous dis, c'est marrant parce que on a beaucoup de réunions. On a par exemple le livre de Tony Atkinson, qu'est-ce qu'il faut avec les inégalités, bien sûr, en France et à l'étranger aussi. Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, vraiment, ils ont écrit beaucoup de choses là-dessus. Mais bon, quand vous regardez les politiques économiques, il y a vraiment très peu à dire, OK, on a changé ça vraiment, diminuer, ou disons ça, essayer de diminuer les inégalités. Il n'y en a presque pas.
Alors, vous parliez des décisions qui sont prises au niveau des gouvernements aux États-Unis comme en Europe, mais dans la tête des citoyens, des populations, il semblerait quand même que cette question de l'équité soit en train de progresser, même aux États-Unis, pays que vous qualifiez donc de pays vraiment attirés aussi par la méritocratie. Et on peut écouter à travers cet entretien, cet extrait de Fox News, comment les choses sont peut-être un tout petit peu en train d'évoluer.
Il y a comme un mouvement contre le capitalisme dans ce pays. Voici un article de Politico, tout juste publié, qui s'appelle « Taxer les riches, les Américains sont pour ». Cet article évoque de récents sondages montrant que le public américain est de plus en plus favorable à une hausse des impôts pour les riches. Pour l'illustrer, nous venons de publier ce sondage Fox News pour savoir si les Américains sont pour augmenter les impôts sur les plus fortunés. Pour les revenus de plus de 10 millions de dollars, 70% sont favorables. Pour les revenus de plus d'un million de dollars, 65% sont pour augmenter les impôts.
Cette idée d'équité a été encouragée dans nos écoles pendant longtemps. On commence maintenant à avoir des jeunes qui ont grandi avec cette notion d'équité par-dessus tout. Désormais, ils commencent à avoir l'âge pour voter et ils apportent cette idéologie avec eux.
Voilà, et parmi les forces bénéfiques, oui. Branko Miljanović, vous parlez notamment de l'éducation, cette idée d'équité qui est en train de progresser, elle devient une évidence pour la nouvelle génération.
Laissez-moi dire quelque chose à propos de l'Amérique, la question qu'on vient de poser. Parce que je pense là, il y a peut-être des changements qui ne sont pas intervenus encore, parce que ce sont vraiment les changements politiques, mais qui n'ont pas eu le pouvoir, c'est-à-dire que ce soit au Congrès, bien sûr, encore moins avec le président, de faire politiquement de faire un changement. Mais dans les médias et dans les, disons, dans la participation et perception populaire, il y a bien sûr les changements. On parle maintenant des impôts de 70%, on parle des impôts sur le capital, on parle des choses dont on ne parlait pas il y a encore un an ou deux ans. Alors peut-être on peut être optimiste dans le futur, peut-être que quelque chose va arriver. Mais jusqu'à présent, comme je dis, en termes de politique économique, pas grand-chose est arrivé. Alors à propos de l'éducation, bien sûr, comme tout le monde, il n'y a personne qui est contre l'éducation. Je suis en faveur de ça. Et d'ailleurs, je pense que l'éducation publique est tellement importante parce que vous avez maintenant la situation que les gens de la classe moyenne ne sont pas en état financièrement vraiment de permettre à leurs, disons, fils ou filles à suivre vraiment les classes dans les écoles privées qui sont très chères. Alors, ce qui arrive, enfin, c'est que vous avez vraiment une classe moyenne qui n'est pas en état vraiment de permettre à ses enfants d'avoir le niveau d'éducation qu'eux-mêmes, ils avaient dans le passé.
À l'heure où l'égalité des chances, dont vous parlez aussi dans cet essai, Branko Milanović, semble être devenu un idéal à la fois inaccessible et dépassé, est-ce que vous pensez que demain, dans les écoles, les universités ou les discours, on parlera encore de mondialisation heureuse? Est-ce qu'on peut encore en parler de cette manière-là?
Je pense que, oui, on peut en parler, mais je pense qu'il est peut-être trop optimiste ou faux de croire que la mondialisation ferait unanimité entre les tous. Parce que c'est un processus qui est extrêmement grand, large. C'est un processus qui vraiment enveloppe tout le monde. Toute la planète, en quelque sorte. Alors, avec tous les processus qui sont tellement importants, que ce soit, par exemple, la révolution industrielle, comme je viens de le dire avant, alors vous avez des gagnants, vous avez des perdants, vous avez des gens qui ne sont pas contents avec ce qui arrive et les autres qui le sont. Alors, pour dire qu'il y aurait une mondialisation heureuse, je ne pense pas qu'il y aurait jamais une mondialisation heureuse. La chose qu'on peut, disons, espérer, c'est qu'il y a plus de gens qui sont heureux avec la mondialisation que sans la mondialisation. Mais autrement, on ne ferait jamais l'unanimité.
Voilà, c'est une des questions qu'on peut soulever, que vous soulevez dans le dernier chapitre de cet essai et après, où vous questionnez un certain nombre de scénarios sur les évolutions pour le 21e siècle avec ces trois grandes inconnues que vous avez évoquées tout au long de cet entretien qui empêchent aussi des prévisions solides sur l'avenir de notre monde. Un grand merci à vous, Branko Milanović. Je rappelle que vous êtes économiste serbo-américain, pas de passage à Paris à l'occasion de la traduction de votre essai phare Inégalité mondiale, c'est à la découverte. Merci monsieur.
Merci beaucoup. Merci.
France Culture, il est 13h23.
La Grande Table. Le rendez-vous de la médiatrice.
Et elle est là dans ce studio. Emmanuel Davier, bonjour.
Bonjour Olivia.
C'est donc votre rendez-vous et qui recevez-vous aujourd'hui?
Eh bien, je reçois Sandrine Trainer et Frédéric Barrère. Un mot pour commencer sur la vaste consultation lancée par Radio France et France Télévisions en octobre dernier. Via une plateforme web, chaque citoyen a pu exprimer sa vision, ses attentes, ses idées pour les médias radio et télévision de demain. Les résultats ont été présentés hier soir au studio 104, en présence notamment d'auditeurs de France Culture qui vous ont exprimé, Sandrine Trainer, tout l'attachement qu'ils éprouvent pour votre station. Et les résultats de cette consultation ont été commentés par Sybille Veil et Delphine Ernotte, respectivement présidente de Radio France et présidente de France Télévisions. Ce qui apparaît clairement, c'est que les Français souhaitent que l'on donne la priorité à l'investigation, à la lutte contre les fausses informations, que l'on mette plus de diversité sur les antennes. Les répondants expriment également une exigence forte en matière de culture et trois actions prioritaires ont été identifiées. La mise en place d'une bibliothèque de l'ensemble des podcasts culturels, un agenda des événements culturels en France et des forums, des débats et des conférences en public. Ces demandes, Sandrine Trainer, vous y répondez déjà sur France Culture?
Écoutez, d'abord bonjour. C'est effectivement la plateforme de demandes, de propositions ou de messages que nous adressent les auditeurs ressemble beaucoup à ce que sont en tout cas nos ambitions. qu'ils nous les adressent veut bien dire à la fois qu'ils ont tout à fait entendu que nous faisions ça. C'est pour ça que, généralement, ils nous écoutent. Ça n'empêche pas de faire toujours plus et mieux. Et par exemple, en matière de débat, un auditeur dans la salle a mentionné nos forums en Sorbonne. On peut peut-être préciser à tout le monde que le 19 février, effectivement, nous serons à la Sorbonne toute la journée. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour parler des démocraties et des nouveaux outils de la démocratie. Mais voilà, c'est très encourageant et il faut qu'on continue à inventer et à faire mieux.
Alors, au-delà des rencontres que vous organisez à la Sorbonne, vous avez également initié à Strasbourg, lors d'une délocalisation, un rendez-vous, un débat avec les auditeurs le 29 janvier dernier afin d'échanger avec eux. Sandrine Trainer, pourquoi est-il nécessaire de créer un espace de dialogue, de confrontation d'opinions avec le public ?
Alors d'abord, il me paraît important, Emmanuel, comme vous le savez, de dire que c'est un projet qui est porté par Radio France. Radio France proche de vous, c'est le nom de ce projet. Aujourd'hui, Move est à Brest. Je crois que c'est le 14 février que France Info sera à Toulouse et le 22 février France Inter à Saint-Étienne. J'invite nos auditeurs qui sont intéressés par les problématiques du service public, de la radio, de regarder sur les sites des chaînes pour peut-être rejoindre dès ce soir le débat qui est organisé par Éric Valmire. Écoutez, il paraît évident aujourd'hui qu'il y a des nécessités de dialogue et d'explication. C'est pas simplement que l'on nous pose des questions et que nous aurions à y répondre, c'est aussi que nous avons besoin de nous interroger sur nos pratiques et de comprendre cette question d'une forme de développement de la défiance dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps partout dans les médias. Ça touche peut-être moins Radio France, ça veut pas dire qu'il faut pas s'interroger et il y a rien de mieux quand même que de se parler. Donc nous allons à la rencontre de nos auditeurs pour se parler.
Frédéric Barrère, vous êtes le directeur de la rédaction de France Culture. Quelles thématiques ont émergé lors de ce débat à Strasbourg ?
Oui, on a parlé d'information, la curiosité sur la façon dont nous proposons l'information. Alors bien sûr, des questions sur la connivence supposée ou ressentie parfois de certains journalistes avec les politiques, les milieux économiques, tout ce que on peut nous poser comme question là-dessus, mais également la hiérarchie de l'information, comment travailler. C'est intéressant parce que effectivement, ça pose cette question de comment nous travaillons et de quelle info nous proposons aux auditeurs. Je vais prendre un exemple très concret, le journal que vous venez d'écouter là, le 2h30 de France Culture, avec dans la grande table d'Olivia. Ben aujourd'hui, on a fait un choix en conférence de rédaction parce que nous avons des conférences de rédaction, nous faisons des choix tous ensemble avec les journalistes de la rédaction. On a fait le choix de reparler du dérèglement climatique. Alors bien sûr, il y a une étude qui a fait du bruit hier, qui confirme que 2018 est l'année la plus chaude, mais on va plus loin, on recense toutes les études scientifiques là-dessus, on va plus loin en expliquant tout cela. Et on a démarré le journal avec cette information qui nous paraît importante. Et Mathieu Orphelin, qui quittait l'REM, ça vient après. Et l'affaire Benalla, où les perquisitions à Mediapart font suite à un courrier de Matignon, ça vient après. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui à Autun en Bourgogne, ça vient après. Alors c'est vrai qu'en général, on privilégie et on hiérarchise d'abord l'international, l'Europe, avec les élections qui approchent, la politique et l'économie. Aujourd'hui, c'était l'environnement.
Mais cet éclairage pédagogique, les auditeurs le comprennent bien ou pas ?
Absolument, ils sont très demandeurs de ces explications, de ces recettes que nous utilisons, de la façon dont on fonctionne. Et à Strasbourg, ça s'est déroulé dans un climat de dialogue en face à face avec le public, bien loin de ce à quoi nous sommes confrontés plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à des échanges malsains, parfois hystériques. Et ça, c'est la grande vertu de cette rencontre avec les auditeurs, qui est d'ailleurs à déborder le cadre horaire que nous avions prévu, puisqu'on a débordé d'une heure facilement, on aurait pu continuer.
Alors évidemment, il ne s'agit pas lors de ces rencontres d'aller prêcher la bonne parole journalistique. Qu'est-ce que cela vous apporte, Sandrine Trainer, ce contact direct qui change un peu des mails des auditeurs ou alors des sollicitations ou interpellations via les réseaux sociaux ?
Eh bien précisément, ça apporte le dialogue, Emmanuel. C'est-à-dire, nous ne savions pas sur quel sujet nous serions éventuellement interrogés ou questionnés. Et il y a des sujets sur lesquels on n'a pas toutes les réponses, loin de là. Par exemple, sur la manière d'intégrer précisément ce qui vient des réseaux sociaux dans l'information telle qu'elle est donnée, dans la hiérarchie de l'information telle qu'elle est produite. Donc oui, ça nous amène tout simplement à nous interroger. Nous interroger.
Et c'est un bel exercice. C'est un bel exercice. C'était aussi un exercice d'humilité pour tous.
Voilà. Oui, en même temps, il ne s'agit pas simplement de battre notre poulpe, mais de réfléchir ensemble.
Bon, on va partir les pieds sur terre, parce que sinon Sonia Krenoun va beaucoup nous en vouloir. France Culture avec aux manettes aujourd'hui, Jean-Frédéric. Il est 13h31, tout de suite, les pieds sur terre.